Radio Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi, le procureur général près la Cour de cassation saisit le bureau du Sénat pour autoriser une instruction à charge d'Alexis Thambwe Mwamba. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais est poursuivi pour détournement. Réaction du CIECO, Nord-Kivu au report du décaissement de 100 millions de dollars américains de la Banque mondiale. Ce syndicat estime que cette décision de la Banque mondiale ne va pas favoriser le programme du chef de l'État qui a initié la gratuité de l'enseignement en RDC. Notre invité, c'est le coordonnateur adjoint de la Coalition pour la promotion et la protection des droits économiques et socioculturels. Jean Bosco Pouna explique pourquoi la coalition exige la réouverture des écoles et des universités avant le 8 février. Madame, Messieurs, bonjour. Le président du Sénat est poursuivi pour détournement des deniers publics. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi hier lundi le bureau du Sénat pour autoriser une instruction à charge d'Alexis Thambwe Mwamba et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. D'après le réquisitoire du procureur dont Radio Okapi détient une copie, à la date du 6 janvier dernier, le président du Sénat a ordonné le retrait pour le compte du Sénat de près de 4 millions de dollars américains et une grande partie de cet argent lui a été remis à son domicile. Explication avec vous, Michel Kefindangoy.
Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation accuse Alexis Thambwe Mwamba d'avoir tiré pour le compte du Sénat 3 chèques d'un import respectif de 2 millions d'euros, 1 million de dollars et 1 million de francs congolais. Le trésorier du Sénat a retiré ces sommes à la Banque commerciale du Congo et a remis les 2 millions d'euros et 1 million de dollars au conseiller financier du questeur du Sénat. Celui-ci est parti les remettre au président du Sénat à sa résidence, souligne le réquisitoire du procureur pour justifier l'ouverture du présent dossier. C'est en effet conformément aux articles 153 de la Constitution et 75 de la loi organique de 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation que ces réquisitoires venaient d'être introduits. Étant donné la gravité des faits et la nécessité de décourager ce genre de comportement, le procureur invite le Sénat à lui autoriser à déposer des actes d'instruction à charge du président du Sénat en vertu de l'article 107 de la Constitution. Si le Sénat refuse de livrer Thambwe Mwamba, la poursuite sera suspendue, mais cette suspension ne pourra excéder la durée de la session en cours, précise le dernier alinéa du même article 117 de la Constitution.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mardi à Kinshasa au Sénat précisément de la session extraordinaire. D'après la décision de sa convocation qui a été signée par le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, cette session extraordinaire comporte un seul point à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'examen et l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette session intervient à 2 jours de la fin de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale où les candidats à l'élection du bureau définitif sont en pleine campagne. Le Sénat devra en principe examiner ce projet de loi de 3 articles avant l'installation demain mercredi du bureau définitif de l'Assemblée nationale et la fin de sa session extraordinaire. C'est pour ainsi permettre la tenue de la commission mixte paritaire au cas où le Sénat voterait ce texte en des termes différents avec l'Assemblée nationale. Tête à tête, Félix Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Abdel Fattah al-Sissi d'Égypte ce mardi au palais présidentiel au Caire. Le chef de l'État congolais séjourne au pays des pharaons depuis lundi soir pour la matérialisation des 4 projets initiés par le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier 2021. D'une valeur globale de 400 millions de dollars américains, ce projet d'infrastructure financé par l'Afriksbank concernent notamment le Grand Bandundu, Grand Équateur, les Grands Kasaï, le Grand Katanga, la province orientale et l'Est de la RDC. Ils seront pilotés à 70% par des sociétés égyptiennes et les autres 30% sont quant à eux réservés aux entreprises congolaises. On écoute depuis le Caire les explications de Jean-Pierre Wafwana, directeur adjoint de la communication à la présidence de la République. Il a été joint par Billy Valutumba.
Le chef de l'État se trouve ici au Caire depuis hier dans le cadre de la signature d'un certain nombre d'ententes qui vont aboutir sur l'ouverture imminente, en tout cas, des grands chantiers dans divers domaines et secteurs d'activité en République démocratique du Congo. La partie congolaise va se retrouver en face d'un certain nombre de partenaires qui sont égyptiens, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle ici IGAD. C'est un peu l'équipe équivalent des FEC, Fédération des entreprises du Congo, et ainsi que le gouvernement égyptien. Si vous me posez la question de savoir quels secteurs sont concernés, je pourrais citer notamment les télécoms et dans le domaine de l'industrie et des infrastructures, sur l'ouverture de grands chantiers répartis dans les 6 zones du territoire national, donc les grands Kasaï, le grand Bandundu, l'Équateur, les grands Katanga, l'ancienne province orientale, et évidemment toute la partie est du pays. Donc les secteurs concernés sont les routes, le secteur de l'eau potable, les télécoms, évidemment avec l'achèvement de l'installation de la fibre optique.
Et puis la coordination de l'intersyndicale des entreprises du portefeuille demande l'implication personnelle du chef de l'État congolais pour la réévaluation des réformes des entreprises publiques. Dans une déclaration faite à la presse ce mardi ici à Kinshasa, le président de cette coordination a indiqué que la réforme qui avait pour but de rendre ces entreprises compétitives a plutôt abouti à leur destruction, ce qui nécessite, selon Armand Ossassé, une réévaluation pour établir les responsabilités et trouver des solutions susceptibles de valoriser ces sociétés. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a réforme, c'est pour innover. Mais ici, c'était le but de créer des sociétés privées au sein des entreprises publiques pour couler ces entreprises et favoriser les sociétés privées. Les résultats, aujourd'hui, toutes les sociétés sont en faillite. Si je peux vous donner les cas d'Electronatra, où à la veille même des réformes, il y avait zéro arrière. Après les réformes, plus de 28 mois. Vous prenez le cas de la Sonas, Sonahydrox, Sokimo, la SNEL, n'en parlons même pas. Et vous prenez le cas de la Régie des eaux. La Gécamine est dépiécée. Nous sollicitons auprès du chef de l'État de donner au ministre des grandes lignes pour réévaluer les réformes. Il y a plus de 40 sociétés. Nous allons demander de revenir à l'ancienne structure, c'est-à-dire le comité des GECHO. Il y avait représentants des travailleurs. Nous sommes en train d'observer, nous demandons la volonté ferme chef d'État avec le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Nous avons confiance au chef de l'État et cap vers l'avenir, nous demandons à tous les travailleurs d'observer, de ne pas être manipulés, aux travailleurs d'être vigilants, calmes et d'attendre que les mots d'ordre du syndic.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, réaction du syndicat des enseignants SIECO au report du décaissement de 100 millions de dollars américains de la Banque mondiale après les révélations de l'Inspection générale des finances, IGF. Le SIECO Nord-Kivu estime que la décision de la Banque mondiale ne va pas favoriser le programme du chef de l'État qui a voulu faire de la gratuité de l'enseignement en RDC une priorité. Pour son secrétaire provincial, la qualité de l'enseignement en RDC va en pâtir et ne sera plus applicable comme prôné par le chef de l'État. Et du coup, la charge va revenir encore aux parents. Silimou Kassé est joint par Denis Lukesso.
Le fait qu'on puisse constater que nous sommes en train de détourner nos propres ressources, ce n'est que normal que l'étranger puisse se rétracter parce qu'il a trouvé que nous sommes moins responsables avec nos propres responsabilités. L'enseignement de qualité auquel nous attendions ne sera pas vraiment exact. C'est la gratuité qui va d'abord en souffrir, à ce sens que cet argent devait aider à accompagner les activités et le problème de la gratuité. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est pas encore bien décantée et c'est encore un problème qui s'ajoute à ce sens que tout ce dont les écoles allaient bénéficier dans le sens de la gratuité ne le sera plus. Donc, le problème de la gratuité, c'est compliqué. L'impact, c'est que ça revient encore au niveau des parents de pouvoir contribuer un des ouvriers, les enfants qui devaient en bénéficier n'auront pas ces moyens qui devaient venir grâce à cet argent de la banque. Donc, la gratuité vient encore d'essouffrir de son application.
Et dans la province de la Tchopo, au moins 107 enseignants de Loa et de Moutchalico en territoire d'Ubundu recevront leurs arriérés de salaire de septembre 2019, des salaires qui sont bloqués à la Caritas diocésaine de Kisangani suite à l'insécurité. Cette organisation caritative a remis hier lundi au ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel l'enveloppe destinée à cette paye. Il s'agit de plus de 28 millions de francs congolais à Kisangani. Jacques Mkongolé.
C'était hier au cours d'une séance de travail entre la Caritas diocésaine et le ministre provincial de l'EPST que la remise de cette enveloppe salariale a eu lieu. Elle avait été gardée à son temps à cause des difficultés de déplacement dans cette contrée où règne un maître des hommes en armes dénommés les revendicants. Ces derniers sèment l'insécurité et paralysent toutes les activités dans les milieux environnants. Le ministre provincial en charge de l'EPST, César Messemo Wamessemo, élu de Loa, dit avoir plaidé auprès de la Caritas pour décanter la situation en ce moment où règne la calmie dans cette contrée.
Et cet engagement, cette responsabilité qu'a pris la Caritas de garder l'argent pendant cette période, les autres ne pensaient pas qu'ils pouvaient un jour récupérer leur salaire. Or, dès notre arrivée, on a posé le problème. La Caritas, qui était la gardienne de cet argent, ils ont pu réunir les montants pour que les ayants droit puissent en bénéficier.
Au total, ce sont plus de 28 420 000 francs congolais débloqués, dont plus de 15 069 000 pour les enseignants de Loa et plus de 12 550 000 pour ceux de Moutchalico, souligne l'abbé Richard Watoko, directeur de la Caritas Kisangani. Une commission mixte sera constituée afin de procéder à la paye sur place. Jacques Mkongolé, Kisangani, Radio Okapi.
Les groupes armés qui pillulent en Ituri entravent les actions de développement de cette province. Au cours d'un point de presse animé ce mardi à Bunia, le gouverneur de province a déploré l'activisme des miliciens en violation de l'acte d'engagement qu'ils ont signé pour le processus de paix. Jean Bamanissa Saïdi rassure que le programme de désarmement et de démobilisation communautaire sera lancé très prochainement par le gouvernement central. Il demande par conséquent aux communautés locales de soutenir les efforts du gouvernement afin de sensibiliser ces miliciens à déposer les armes. Il est dit à Ezekiel Mouzalia.
En ce qui concerne la situation générale de l'Ituri, nous sommes toujours en insécurité. Nous sommes en train de pousser. Je vous dis qu'aujourd'hui, on est un peu dans une situation politique et financière difficile. Voilà les deux causes. Mettre en place le DDRC, deux, mettre en place les mécanismes financiers pour le faire fonctionner. Parce que la prise en charge de tous ces milliers de personnes entre le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri, demande beaucoup de moyens. Il y a les droits de l'homme, il y a la façon dont il faut prendre tout ce mécanisme en place. Et tout ça, ça demande une organisation, ça demande des moyens. Si les membres des communautés disent, voilà, nous arrêtons la guerre, ne sommes plus d'accord avec nos fils, nos femmes, les hommes qui sont en train d'utiliser les armes à feu, nous allons les livrer, mais la guerre va s'arrêter.
Rendons-nous maintenant au Nord Kivu où l'insécurité demeure le principal défi pour garantir la conservation du parc national de Virunga. C'est le constat qui a été fait par le corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées. À l'issue d'une tournée la semaine dernière en province, le commandement de cette unité de l'armée intégrée au sein de l'ICCN a présenté ce rapport hier au président de l'Assemblée provinciale à Goma, Bernard Danyangi.
Le corps en charge de la protection des parcs nationaux et réserves naturelles, corps PPN en sigle, déplore les tueries d'environ 20 éco-gardes de l'ICCN par les groupes armés depuis l'année dernière, dont les 6 le mois de janvier dernier. Le commandant de cette unité regrette la présence de groupes armés qui ont fait du parc leur zone de prédilection. Il annonce que des dispositions sont déjà prises pour renforcer les mesures de protection du dit parc ainsi que de celles de ses gestionnaires. Le général-major Albert Massibamba.
Compte tenu de toutes les situations qui se sont passées, on a perdu nos éco-gardes. Il fallait venir motiver les autres, parce que les éco-gardes, bien sûr qu'ils ont une formation, et nous allons les ajouter à quoi d'autres formations qui est typique à notre topographie, puisque dans nos parcs, il y a des groupes armés, nationaux et étrangers, qui ont élu domicile dans les parcs.
Le corps PPN a sollicité hier l'implication de l'Assemblée provinciale pour la protection du parc national de Virunga, dont, environ 200 éco-gardes ont été tués pendant l'exercice de leurs fonctions. Pour la plupart, c'est durant les deux dernières décennies de l'insécurité en province, pendant lesquelles le phénomène bandes et groupes armés est en croissance exponentielle à l'intérieur du Penvi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nous sommes le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Ces zones humides sont à ce jour vouées à l'abandon en RDC. La société civile environnementale propose l'adoption des dispositions sur la protection des zones humides pour lutter efficacement contre le changement climatique. Des précisions avec le président de la société civile environnementale du Sud Kivu, Josué Aruna, au micro d'Emmanuel Elamejo Kabedi.
Les zones humides en RDC sont considérées comme des espaces à l'abandon, c'est-à-dire il y a un délaissement total et une occupation illégale des milieux humides au niveau de notre province et au niveau du pays. Et cela a d'énormes conséquences, au lieu que ces zones humides nous aident à lutter contre le changement climatique, mais aujourd'hui, comme on les a occupées, on construit bizarrement, donc ça constitue des milliers de morts de personnes. Alors que ce sont ces écosystèmes qui devraient quand même nous aider à atténuer les chocs dus au changement climatique. Donc la situation n'est pas bonne. Pour la bonne gestion des zones humides, il faut d'abord mettre en place une politique locale efficace, c'est-à-dire comme nous avons initié un édit au niveau de la province du Sud Kivu aussi la gestion des zones humides, il fallait quand même à commencer par des stratégies locales au niveau du gouvernement provincial, afin qu'on nous mette en place un élu provincial. Ça va booster même les intérêts au niveau national.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, un avion transportant 1 million de doses du vaccin AstraZeneca s'est posé lundi après-midi à Johannesburg. Ces doses ont été délivrées par un laboratoire indien. Une cargaison accueillie par le président sud-africain Cyril Ramaphosa et avec soulagement alors que ce pays est le plus durement touché par la pandémie du coronavirus sur le continent africain. En Afghanistan, au moins 2 personnes ont été tuées et 4 autres grièvement blessées ce mardi matin à Kaboul dans une explosion en début de la matinée de plusieurs bombes fixées à des véhicules. Ces attentats matinaux à une heure de grande affluence sur les routes de la capitale sont devenus l'une des tactiques préférées des insurgés selon l'agence France Presse AFP.
L'invité.
Notre invité, c'est Jean Bosco Pouna, coordonnateur adjoint de la Coalition pour la promotion et la protection des droits économiques et socioculturels. Il explique pourquoi la coalition exige la réouverture urgente des écoles et des universités avant le 8 février. Il commente également la situation politique de l'heure et exprime ses inquiétudes sur la fermeture du marché central. Il s'entretient avec Jérôme Lungembo.
Monsieur Jean Bosco Pouna, bonjour.
Et bonjour.
Sur la situation sociopolitique du pays, vous aviez publié les analyses de l'enquête effectuée par le DESC, c'est votre coalition. Et quelle année la quintessence?
Il faut dire que effectivement la coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, nous avons tenu le point de presse sur 3 points, notamment la fermeture cavalière du marché central de Kinshasa. Nous nous sommes appesantis également sur la réouverture des écoles et université. Et enfin, nous avons parlé de la question relative du formateur du gouvernement. Alors, s'agissant du premier point, nous sommes revenus sur le marché central de Kinshasa. Après les monitorings que nous avons effectués, l'enquête que nous avons menée, nous nous sommes rendus compte que le gouverneur Ngobila a violé systématiquement les droits humains, notamment en ce qui concerne les principes de participation et d'inclusion.
Et là, vous évoquez la complicité et la complaisance de l'Assemblée provinciale. Que voulez-vous dire par là?
Mais il y a une complicité, une complaisance vraiment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce que vous savez, l'Assemblée provinciale devrait protéger l'emploi des Kinois. Malheureusement, c'est cette Assemblée provinciale qui a permis au gouverneur, donc à l'exécutif provincial, de pouvoir délocaliser ce marché.
Aussi, la coalition, dans ce point de presse, a exprimé son amertume, le fait de la privatisation du droit à l'éducation des jeunes, et exige la réouverture des écoles écoles, universités, sur toute étendue de la République, en déjà 14 jours. Donc si mes calculs sont bons, d'ici avant le 8, il faut qu'il y ait la rentrée scolaire.
Mais très bien, avant le 8, c'est-à-dire déjà le 5, nous aurons franchi 60 jours, c'est-à-dire il y a un mois de grève que nous avons lancé au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Mais il y a un mois depuis qu'on a neutralisé les écoles. Lorsque vous prenez le 2 mois, ça vous fait 60 jours. Alors si vous faites un petit calcul, 222 jours de cours moins 60 jours, nous tombons vers les 160 jours, c'est-à-dire nous n'aurons pas atteint les 180 jours qui nous permettent le minimum de pouvoir fonctionner. Ça veut dire que le 5 février, ça sera fini, cette année devrait être déclarée blanche. Nous n'allons pas accepter, en tant que défenseurs des enseignants et de l'éducation, qu'on puisse encore procéder aux arrangements non pédagogiques pour faire passer les élèves des classes. Ça sera un abrutissement programmé.
Vous ne craignez pas la contamination de nos enfants?
Nous avons demandé au gouvernement de pouvoir ériger les mesures sanitaires de sécurité, parce que partout ailleurs les écoles fonctionnent. Eh bien, on a pris des précautions pour sécuriser sanitairement les écoles. Et je crois que le comité multisectoriel à la riposte doit jouer son rôle, y compris notre gouvernement. Voilà pourquoi au niveau de la coalition DESC, eh bien, nous sommes en train d'interpeller le président de la République pour qu'il s'implique personnellement. Qu'il s'agisse de ces marchands qu'on est en train de renvoyer au chômage de manière arbitraire, qu'il s'agisse des écoles. Aujourd'hui, les chefs de l'État, en attendant un gouvernement responsable, les chefs de l'État doivent jouer son véritable rôle en tant que premier citoyen pour sécuriser les Congolais. Nous voulons parler des petits peuples. Les écoles doivent reprendre pour que nous puissions continuer à faire le travail, parce que si la jeunesse est abandonnée à son triste sort, eh bien, c'est le pays qui va devoir aller à la dérive.
Le troisième point de votre point de presse, c'est la situation politique de l'heure. Vous pensez qu'il y a imminence de sortir un gouvernement qui devra avoir l'obligation de tenir compte des aspirations de la population. Que recommandez-vous concrètement?
Oui, bien sûr, parce que vous savez que ce pays a toujours été dirigé sur base des équations politiques. Regardez ce qu'on a fait du secteur de l'enseignement. Voilà pour nous, aujourd'hui, l'obligation est de pouvoir avoir un gouvernement. Le premier ministre doit véritablement sortir. Il faut absolument qu'on le fasse rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions pendantes. Mais un gouvernement qui puisse placer le peuple au centre de l'action politique. Et nous, au niveau d'IDES, nous avons pensé que le choix pourra permettre non seulement protéger la population, sécuriser la population, mais également, il pourra réduire les trains de vie des ministres. Il pourra d'abord réduire la taille de ce gouvernement, parce que nous n'avons plus besoin d'un gouvernement éléphantesque. Et donc, un homme comme ça porté à la primature, nous pensons qu'il va devoir répondre aux attentes de nos populations qui souffrent.
Monsieur Jean Bosco Opuna, je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, Jean Bosco Opuna, coordonnateur adjoint de la Coalition pour la promotion et la protection des droits économiques et socioculturels. Il était interrogé pour nous par Jir Lungembo et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Tikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelé Kipelamondo.